Monsieur Oliver Jolly, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Kirby Blackhead est présent? Désolé, je suis arrivé un petit peu non préparé. J'ai dû quitter la communauté. Pourriez-vous parler, s'il vous plaît, dans le micro pour qu'on puisse bien vous entendre? Alors, je m'excuse, je ne suis pas très préparé. Je ne pensais pas, j'avais pas prévu de parler, mais en fait, je veux que ma voix soit entendue et que mes commentaires également soient pris en considération et intégrés dans le rapport ou par rapport à ce qui va se passer. Je sais au fond de mon cœur qu'il n'y a rien qui va changer, vraiment, quant à la manière dont les gens vont percevoir cette mine. Et comment c'est quelque part glorifié comme le sauveur de notre communauté. Il y a longtemps, nos aînés sont arrivés ici avec très peu de choses et ils ont survécu. Oui, ils se sont adaptés, c'est vrai. Mais cette adaptation, qu'on nous demande aujourd'hui par rapport à ce progrès comporte un grand nombre de facteurs qui donc cachent parfois certains problèmes dont nous ne parlons pas dans ces réunions ici. On nous demande simplement d'accepter, d'aller de l'avant. Alors si on veut continuer à croître, à construire notre communauté, c'est ce que j'entends. Vous avez entendu hier, donc, quand j'ai parlé de mes préoccupations, ce sont de véritables préoccupations. Je pense que certains de ces développements sont détrimentaux à notre communauté parce que la manière de penser, la mentalité au fond n'a pas vraiment changé. La manière dont le progrès a touché cette communauté n'a pas vraiment changé. Les changements d'attitude et de comportement, ce n'est pas vraiment de grands changements que j'ai pu constater. Et également aussi le changement du comportement, notamment en termes de discipline. On a vu l'impact de l'EM1. On a vu justement aussi les problèmes de questions sociales, les familles également dysfonctionnelles, la violence, les séparations, toute forme d'abus, de maltraitance. Nous avons vu tout ceci. Mais avec la grâce de Dieu, eh bien, les gens ont réussi à survivre, à s'en sortir. Ils se sont réunis ensemble. Mais il y a aussi, par ailleurs, dans certaines parties de l'abandon, de la négligence dans les structures sociales. Et lorsque l'on parle de négligence, c'est une négligence que d'autres ne veulent pas voir. Les stratégies qui ont été mises en place l'ont été sans le consentement des gens, dès le début. Et c'est là où les premiers impacts se sont fait sentir. J'aurais aimé que ces premiers éléments mis en place l'aient été faits en respectant les volontés des communautés et dans le cadre de l'entente et également dans le cadre de la convention ou des accords. Moi, j'aurais bien aimé voir les choses mises en place de manière adéquate, alors qu'il y a eu plutôt de la trahison. Un grand nombre de personnes ne veulent pas venir ici parce qu'ils vont se sentir trahis, ils vont se sentir qui n'ont pas été vraiment entendus ni écoutés. Cela fait partie du processus, même dans la structure de nos bandes. Il y a beaucoup d'abus et d'utilisation malveillante. Vous m'avez entendu m'exprimer là-dessus hier. Moi, je viens ici et j'ai des préoccupations par rapport justement à ce que dit M. Guy Bourassa. Moi, je voudrais qu'il soit très clair quant à la manière dont il va traiter les gens ici, parce qu'il n'y ait pas du népotisme qui émane de ceci en faveur des utilisateurs de terre du R19. Moi, je l'ai vu à maintes reprises, même dans les structures de travail de cette communauté ici, où il y a eu beaucoup de favoritisme pour certaines personnes. Il y avait des entreprises ici. Et ils avaient des entreprises au sein de la communauté où ils ont justement engagé des gens de l'extérieur. Voyez ici, qu'est-ce qui est écrit ? On avait, par exemple, des opérateurs de train sans travail. Nous avons des contrats ici dans notre structure sociale avec des gens qualifiés au sein de la communauté, mais des personnes auxquelles ils n'ont pas offert d'emploi. Et justement, ils attendent quoi? Ils auraient dû venir avec ces affiches dès le départ. Il y a beaucoup de personnes qui ont été justement abandonnées. Donc, on avait ici des opérateurs qui étaient vraiment formés, qu'on aurait pu utiliser. Donc, c'est comme je l'ai dit auparavant, la question de la discipline a beaucoup de facettes. Et il y a des raisons pour lesquelles ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est une autre raison, justement, qui explique pourquoi il ne faudrait pas aller de l'avant avec ce projet. Il faudrait que le progrès, la productivité, ce sera toujours une grande préoccupation de leur part. Mais ma plus grande préoccupation, ce sont les questions sociales et l'impact social que ça va avoir sur nos communautés. Lorsque l'on dépend de plus en plus de certaines substances comme la drogue et l'alcool, ça augmente de manière importante. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le rapport sur les services de bien-être et les services sociaux. Bon, je vais m'assurer que vous puissions peut-être vous fournir ce document. La question que je posais à mes collègues, c'était la suivante. Alors, est-ce qu'il y a des comités donc sectoriels entre justement Donc, est-ce que ces institutions sont peut-être en place? Est-ce qu'il y a des résultats qui ont été obtenus à partir de différents comités mis en place? La seule chose que je peux dire, c'est que nous avons eu des discussions avec ces différents comités. On a parlé avec Chibougamau, on a parlé avec Québec. Bon, dans certaines réunions publiques, et on parle de nos besoins à l'avenir et comment quelle approche nous allons suivre. Mais notamment avec les gens de Chibougamau, de manière plus spécifique, n'est-ce pas, Brian? Je pense que le ministère du développement des ressources humaines et le gouvernement de la nation CRI et donc à son administration centrale à Mistissini, et ils ont un coordinateur pour les activités minières. Je pense que c'est également aussi un maître de trapage. Alors, ils essayent justement, j'ai vu un programme de récemment, ils ont passé une entente avec le Canada pour une formation, justement, pour former les gens dans le secteur minier, donc des formations professionnelles minières. Et ce n'est pas la première fois. Il y a eu d'autres cours de formation dans le secteur minier depuis plusieurs années parce qu'il, bien sûr, établit des priorités, notamment le secteur minier qui était une source de revenus pour les territoires et qui représente un grand potentiel. Merci. Est-ce que vous voulez continuer? Bon, mais le rapport dont vous parlez, nous ne l'avons pas reçu, donc cela ne nous a pas été soumis. Donc, je vais m'assurer qu'il vous soit soumis. Je vais voir dans mes collègues du bureau qui puissent vous le présenter, parce que je sais qu'ils avaient présenté quelque chose auparavant, mais je ne sais pas s'ils l'avaient vraiment soumis ou s'ils l'avaient remis aux personnes en question. Donc, je vais vérifier ceci, s'il y a un exemplaire de disponible. Très bien. Alors, où en étais-je? Alors, l'impact social, bien sûr, cela amène aussi beaucoup de désespoir, et c'est quelque chose que l'on ne voit pas, c'est derrière les portes fermées, mais c'est un impact très négatif sur les membres de notre communauté. C'est un processus continu, et comment est-ce que l'on perçoit également et comment on utilise aussi nos fonds sociaux? C'est la question qui se pose. Moi, je crois qu'au cours des deux dernières années, j'ai vu quelques améliorations, je dois le dire. Mais lorsque l'on veut aussi construire des fois l'économie, parfois on parle de personnes qui sont malades et qui ne sont pas donc en santé, qui ne sont pas sains, et de leur faire promettre la gloire totale, des promesses. En fait, bon, quel sera le résultat au fond? Quels seront les résultats? Et je vois donc 25 000 dollars pour les questions sociales. C'est vraiment des peanuts, c'est rien du tout par rapport aux besoins qui existent en la matière. il y a également beaucoup de situations d'abandon que personne ne veut vraiment regarder en face. Les gens ont connu ces impacts depuis si longtemps. Et le processus d'assimilation, c'est une bataille, un processus continu au sein de notre communauté, comme je l'ai dit auparavant. Mais également, donc, lorsque l'on veut également aussi construire donc au niveau de nos communautés. Moi, je vois que je m'excuse, je vais peut-être offenser certaines personnes, mais je parle de la réalité. C'est la réalité de cette gloire ne sera pas si victorieuse lorsque l'on constate ce que l'on a vu auprès d'autres projets, comment nous avons vu que des personnes également dans certaines des entreprises qui ont un certain pouvoir, et qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour conserver ce momentum. Il y a un changement de mentalité ici qui a changé. Et, enfin, ou plutôt la mentalité, c'est quelque chose de très difficile à changer, et c'est très puissant. Et j'ai travaillé sur moi-même aussi. Je pense que c'est difficile d'être assis ici devant. Je veux en fait d'un côté de moi que cela aille de l'avant, mais je veux que vous gardiez présent à l'esprit aussi toutes les conséquences, tous les impacts. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir les chiffres devant vous, les nombres, vous pouvez avoir tous les éléments de soutien, mais on n'a rien dans les structures sociales, parce que tout est encore tabou en termes d'aborder certains sujets. Il faudrait qu'on arrête d'agir comme si on était si fort que ça. Alors, je pense qu'on construit trop rapidement. Et je pense qu'on abandonne en même temps aussi trop rapidement, parce qu'on utilise mal et on abuse de nos fonds sociaux. Et comme vous avez, par exemple, vu des bâtiments, alors des bâtiments, est-ce qu'ils sont encore utilisés? Mais on continue à construire malgré tout. Alors, cette mentalité, elle va jusqu'où? Combien d'autres bâtiments ne seront plus utilisés à l'avenir? Je pense que la construction de notre nation, c'est vient de la construction des personnes elles-mêmes. Et je pense que c'est important de travailler là-dessus. Les impacts du passé sont ici. La réconciliation a été faite par le gouvernement, mais c'est les gens qui ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes et de mieux comprendre, de comprendre ce par quoi ils sont passés, de partager ces connaissances. Ce n'est pas de s'auto-habiliter, mais d'habiliter nos gouvernements, notre communauté. Il y a tant de destruction et de dysfonctionnement que je n'aime vraiment pas voir. Je n'aime pas non plus les luttes de pouvoir. Pardon. Et je l'ai vu directement, je l'ai vu sur les lieux de travail. J'ai fait des patrouilles dans 4 camps. J'ai pu constater directement certains éléments. J'ai vu combien les gens voulaient chacun leur partie, leur portion du gâteau. Et c'est sur la base de ce que j'ai pu observer que je m'exprime. Et nous voyons ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, bien sûr, avec les point de vue que je désire exprimer, je pourrais parler encore longtemps, mais je ne m'étais pas vraiment préparé en la matière. Mais mon point de vue, ce serait toujours dire, mais oui, nous allons survivre. Oui, nous allons nous adapter, nous allons survivre. Mais au fur et à mesure que nous nous adaptons et que nous survivons, eh bien, nous détruisons en même temps notre bien le plus précieux. C'est la planète elle-même que nous détruisons. La planète est la ressource la plus précieuse que nous ayons devant nous. Et regardez ce que nous faisons à cette planète. Bon, moi, j'ai parlé de l'accumulation de masse en termes de toxines et de pollution dans notre environnement, dans notre monde. On vit de l'air que l'on respire, de l'eau que l'on boit, qui sont des ressources essentielles et qui vont... ce n'est pas nous directement qui allons sentir les impacts de tout ça, mais c'est la génération suivante, c'est eux qui vont vraiment souffrir de tous ces impacts. Alors que nous essayons de défendre, d'enseigner certains principes, on ne voit pas la réalité. L'avenir est déjà devant nous, il est déjà écrit cet avenir, mais nous ne sommes pas conscients vraiment de nos responsabilités et des impacts que ceci va avoir. Il y a de meilleures manières d'aborder ces questions. Non, nous pensons qu'il faut que nous continuons à construire, notamment avoir une meilleure vie matérielle. on veut améliorer nos vies, mais plus nous essayons d'améliorer nos vies, plus nous sommes en fait déplacés, déconnectés. Et c'est l'un des plus grands impacts que nous ayons. Vous voyez, je suis donc assis à côté de ma femme et je l'aime, ma femme, mais parfois je vois qu'elle est assise à côté de moi, mais elle aime plus Facebook que moi. C'est un peu notre communauté aussi, nous ne sommes plus connectés avec les gens. Et nous, comme ils disent, il faut être connecté donc aux terres. Moi, je suis connecté à cette terre, à ce territoire. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est d'aller ramasser des bleuets dans les buissons, dans la forêt, dans la fleurs, la végétation. Et moi, je vois ces petits buissons qui sont détruits. Et je me souviens des aînés qui étaient assis ensemble et qui ramassaient ces bleuets pour que les gens retrouvent leur meilleur lieu de pêche. Et ceci ne se produit plus. Bon, comme je l'ai dit, l'homme était très jeune lorsqu'il allait pêcher dans certaines rivières, et il y a plus de 50 ans où il n'y a plus de poissons dans certains endroits. Alors, qui est imputable? À quel moment, justement, la réhabilitation, la restauration de ces sites, de ces systèmes va se produire? Moi, je suis fatigué de voir pas seulement les impacts sur notre communauté, mais à échelle internationale. J'ai vu des rapports où il y a, par exemple, il y a des milliers d'oiseaux migrateurs qui meurent. J'ai vu également les phoques léopards qui meurent sur les côtes de la Californie. J'ai vu la destruction également par les boues toxiques lorsqu'il y a des débordements de barrages. Et ce sont ça mes inquiétudes. Si le barrage, il n'y a aucune garantie, parce que à un moment donné, tout ce qu'on fait, on ne pourra pas empêcher que quelque chose se produise. À ce moment-là, quel est le processus de nettoyage? Comment est-ce qu'ils vont être capables de réagir lorsqu'il va se passer certains événements? Et est-ce qu'ils sont vraiment imputables pour le faire? Moi, c'est ma question fondamentale. Alors, comme je vois aujourd'hui dans les nouvelles, donc les boues toxiques se retrouvent toujours à la surface des rivières en Colombie-Britannique. Je ne sais pas si la mine est toujours présente, mais ces boues toxiques, elles, sont toujours là et se retrouvent déversés dans l'écosystème, dans les rivières. Et ça a un impact sur l'habitat, pas uniquement sur les saumons, mais également sur d'autres animaux aussi, comme les baleines, les cétacés, qui remontent une certaine partie de ces rivières. Donc, on ne parle pas ici seulement de la diversité de l'ichtyofaune, mais également de la qualité de la vie aussi. On pense aussi aux oiseaux, on pense aux hiboux. Et bon, on va peut-être en parler un petit peu plus tard à nouveau, mais alors, en conclusion, je pense que tout le monde, bien sûr, fait des prières au Créateur. Tout le monde demande à Dieu de pouvoir utiliser chacun son libre arbitre. Et c'est un processus, une discussion déjà qui se tient depuis longtemps. Même Dieu a prévu tout ce qui allait se passer ici. Même ce qui est inscrit dans la Bible par un grand nombre de ses prophètes. Ce n'était pas une destruction de masse. Mais c'est la destruction de masse qui est créée par l'humanité et par justement les désirs égoïstes et l'avarice. Et c'est ce qu'il faut vraiment pouvoir éviter, ce que l'on devrait pouvoir éviter aujourd'hui. Désolé pour ce dernier commentaire, mais je voulais vraiment le mentionner. Merci beaucoup de votre présentation. Alors, un instant, s'il vous plaît. Oh, j'ai un dernier point. Bon, j'essaie simplement de pouvoir être équitable et de donner la parole à tout le monde pour que chaque personne... Ben, je dis, quand on vient à ces réunions, le temps, c'est toujours un problème. Ben oui, c'est la vie, monsieur, malheureusement. Je suis désolé. Bon, je vais juste dire... Une chose également aussi, les boues accumulées. Est-ce qu'elles vont rester dans ce bassin? Est-ce qu'il y a un processus pour pouvoir se débarrasser de ces boues et qu'elles ne soient pas accumulées? Alors que ce ne sont pas aussi des déversements naturels, ou est-ce qu'il va y avoir peut-être... S'il y a par exemple une fuite, eh bien ça va avoir un impact, ces boues. Oui, rapidement pour répondre à votre question. En fait, en ce qui concerne les boues, qui en fait sont à la fois les stériles et les résidus, et c'est là justement toutes ces boues vont être accumulées dans ces haldes. Et une différence dans le cas de la Colombie-Britannique, c'est que dans notre projet, la manière dont il a été conçu, c'était de telle sorte pour éviter ce risque. Donc il n'y aura pas de barrage, il n'y aura pas de digue autour de la halde des résidus. Et ça va être comme toute peut-être halde de rocher. Il n'y aura rien qui va être vraiment empilé. Et à long terme, en fait, l'idée, ce sera de revégétaliser ce terrain. Donc, à long terme, ce sera simplement comme une colline naturelle telle qu'elles existent aujourd'hui dans le paysage. C'est le point final. C'est le projet qui est basé là-dessus. Merci. Bon, ça va s'accumuler dans les bassins eux-mêmes, de toute façon, parce qu'il va y avoir l'eau qui va les apporter. Oui, il y a plusieurs bassins, bien sûr, qui seront sur le site et on les retrouvera aussi dans ces bassins. Alors, au fur et à mesure que la mine sera fermée, nous allons retirer tout le matériel et le remettre sur la halde, donc des résidus, et ce sera certainement la dernière phase. Et avant de retirer ces sédiments de ces bassins, on va reprendre donc les haldes de résidus et de stériles. Nous allons tester la qualité pour s'assurer que c'est vraiment de la bonne qualité. Si ça ne correspond pas aux critères gouvernementaux de qualité, il faudra les gérer et les placer sur un site différent, donc en dehors du site minier et également en dehors même peut-être de la région, si cela doit se faire. Et comme mon père donc parlait également de certains angles de cette colline fabriquée et le matériel que vous allez utiliser dans un avenir proche afin de revégétaliser. Est-ce qu'il y aura un processus qui va se produire très tôt au niveau de la revégétalisation? Donc, ce sera absorbé directement grâce à la revégétalisation. Oui, vous avez raison. En fait, le plan à l'heure actuelle, même si la mine aura une durée de vie de 26 ans, mais la revégétalisation va commencer à la 7e année. Ensuite, il y aura une deuxième phase à l'année 16 et la dernière finale, ce sera bien sûr l'année 26. Mais déjà, à partir de la 7e année, je dirais un tiers de ce que vous avez vu sera déjà revégétalisé. Et ensuite, à l'année 16, il y aura à peu près deux tiers qui auront été revégétalisés. Et à 26, ce sera donc les dernières parties qui doivent être revégétalisées, qui le sera. L'idée maintenant, c'est d'utiliser des espèces naturelles qui se retrouvent dans la région naturellement. Donc, nous n'allons pas importer des espèces végétales venant de Montréal et de créer des problèmes. On va utiliser les espèces locales. Et dernière préoccupation, est-ce que vous pouvez m'aider à gérer l'équité entre tout le monde? Je veux vraiment que nous ayons l'occasion. Je ne veux pas, bien sûr, enfreindre vos droits. Je veux toutefois m'assurer que toutes les personnes qui se présentent devant nous ont un traitement équitable. Là, je vous demande votre aide pour être le plus équitable possible. Alors, j'ai une dernière question. J'avais oublié ce point. C'est en parlant, donc, lorsque j'ai parlé de la question de sociale et sécurité. Je vous demande votre aide. Moi, je vous demande juste de pouvoir finir. Ce n'est pas pour être irrespectueux, mais je veux terminer. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette voix, que je représente ici, et ils n'ont pas leur voix pour venir parler. C'est important pour nous que nous ayons le temps de partager. OK, je vous demande votre aide, c'est tout. Je vous demande simplement votre participation, votre coopération. D'accord.